Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 26 août 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 22 civils ont été tués hier par des rebelles ADF à Beni dans le Nord Kivu. Au Mali, le mouvement de Mamoud Diko offre à la junte de collaborer pour la transition. Au Malawi, une chef traditionnelle ordonne de dissoudre les mariages d'enfants qui ont eu lieu pendant le confinement. Deux personnes ont été tuées à Kenosha lors de manifestations violentes pour dénoncer une nouvelle bavure de la police américaine. Convention nationale républicaine, parmi les orateurs de cette troisième soirée, le vice-président américain Mike Pence. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Nouvelle tuerie à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 22 civils ont été tués hier par des rebelles ADF, Eddy Isango.
22 corps sans vie ont été retrouvés au matin dans trois localités du territoire de Beni dans le Nord Kivu. La société civile accuse les rebelles à dominance musulmane des forces démocratiques alliées ADF. L'attaque a eu lieu aux petites heures, selon Jamali Moussa, président de la société civile locale. Les ADF ont tué beaucoup de personnes à l'arme blanche. 11 corps ont été découverts à Maïtike, 7 à Mabassana, 2 à Sayumi et d'autres corps sont près de la forêt, témoigne-t-il. Selon lui, le bilan peut bien être plus lourd car personne ne s'aventure dans la forêt. Jamali Moussa reproche aux autorités de délaisser la population. L'administratrice adjointe du territoire, Rosette Kavula, soutient que les mesures de sécurité sont renforcées, mais rappelle à la population de suivre les consignes. Samedi, 12 autres civils ont été tués par les mêmes groupes. L'armée congolaise a annoncé fin octobre des opérations de grande envergure contre ces rebelles. Les ADF ont multiplié leurs attaques depuis 2014, tuant plus d'un millier de personnes à ces jours.
Une pétition exigeant l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, accusé de négation d'un massacre en 1998 dans l'est de la RDC, est largement commentée en ligne. Dans la pétition partagée, des internautes congolais dénoncent les propos d'un tweet de Vincent Karega le 24 août qu'ils jugent négationniste. Le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Aloïs Ntiwira Gabo, chef des renseignements militaires pendant le génocide de 1994, à l'encontre duquel une enquête pour crimes contre l'humanité a été ouverte en France où il pourrait résider. Le procureur général rwandais, Aimable Avugiyaremye, affirme que la justice rwandaise a enquêté sur lui et travaille avec l'unité française chargée de combattre les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au Mali, le mouvement de contestation qui s'est mobilisé contre le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit disposé à accompagner la junte qu'il a renversée dans le processus de transition. Nous sommes venus échanger et réaffirmer que nous sommes sur les mêmes positions que les militaires, a déclaré Issa Kaoudjim, un proche de l'imam Mamoud Diko, figure la plus influente du mouvement du M5-RFP. Côte d'Ivoire, la coalition EDS a annoncé qu'elle allait déposer la candidature de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, actuellement en Belgique, à la présidentielle du 31 octobre. EDS comprend notamment Gor, la faction restée loyale à M. Gbagbo au sein de son parti, le Front populaire ivoirien. Son ancien premier ministre Pascal Affine-Guessan, qui a le contrôle légal du parti, a lui déjà annoncé sa propre candidature. Au Togo, 16 militants de l'opposition ont été libérés après avoir purgé leur peine de 4 mois de prison, a déclaré Fulbert Atisso, cadre du MPDD. Ils sont actuellement en quarantaine dans un hôtel de Lomé, conformément aux règles sanitaires imposées en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-il souligné. Ces militants avaient été condamnés à 1 an de prison assorti de 8 mois de sursis pour rébellion et complicité de rébellion. Au Malawi, la chef traditionnelle du district de Dedza a ordonné aux chefs de village de dissoudre tous les mariages d'enfants qui ont eu lieu pendant la période de confinement. Forte d'une autorité informelle sur plus de 900 000 personnes, Teresa Kajindamoto veut voir ses filles reprendre leurs études en septembre. John Lyndon nous en dit plus.
Teresa Kajindamoto, une militante bien connue de la lutte contre le mariage précoce, a déploré une augmentation de cette pratique illégale, ainsi que les grossesses d'adolescentes pendant la période de confinement. Pour cette bataille contre le mariage de jeunes filles, Kajindamoto a uni ses forces à celles des groupes de défense et des droits de femmes, diffusant leur message auprès des parents dans des villages où des taux élevés de mariage précoce persistent malgré une interdiction de 2015. Nous sommes allés dans les villages pour conseiller aux gens d'apprendre à s'occuper des enfants afin qu'ils puissent retourner à l'école quand elles rouvriront, parce que c'est là que se situe l'avenir des enfants, a expliqué Madame Kajindamoto. Le Malawi a adopté en 2015 une loi interdisant le mariage des enfants et portant l'âge minimum à 18 ans, mais le phénomène reste répandu. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, près de 47% des filles au Malawi sont mariées avant l'âge de 18 ans et 9% deviennent des enfants mariés avant leur 15e anniversaire. Le mariage précoce prive non seulement les filles d'éducation et d'opportunités, mais augmente le risque des décès ou blessures à l'accouchement si elles ont des enfants avant que leur corps ne soit prêt.
Paris doit urgemment faciliter le nettoyage des sites de ses essais nucléaires en Algérie dans les années 60, sur lesquels demeurent des déchets toxiques, a estimé l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. La France doit remettre aux autorités algériennes la liste complète des emplacements où ont été enfouis des déchets contaminés, estime l'organisation dans un rapport. En Libye, au moins 6 manifestants ont été enlevés dimanche lors de rassemblements contre la corruption, affirme Amnesty International, demandant la libération de toutes les personnes détenues. Durant cette même soirée, d'autres manifestants ont été blessés par des tirs à balles réelles d'une milice alliée au gouvernement d'Union, affirme l'ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, 2 personnes ont été tuées par balle la nuit dernière à Kenosha, dans le Wisconsin, lors de manifestations violentes après qu'un policier a grièvement blessé un Afro-Américain dimanche. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Des violences ont éclaté à Kenosha quand des centaines de manifestants ont défilé pour la 3e nuit consécutive après la diffusion d'une vidéo montrant Jacob Blake grièvement blessé par un policier blanc. Des vidéos mises en ligne montrent des gens courant dans les rues de Kenosha alors que des coups de feu retentissaient. Dans d'autres vidéos, on peut voir des hommes blessés au sol. Les tirs ont entraîné la mort de 2 personnes et une 3e personne a été hospitalisée pour des blessures graves, mais qui ne mettent pas sa vie en danger selon les informations communiquées par la police de Kenosha, qui précise qu'une enquête est en cours. Le 24 août, au lendemain de l'incident au cours duquel Jacob Blake, Afro-Américain de 29 ans, a reçu les tirs d'un policier blanc dans le dos, le département de la justice de l'État du Wisconsin a ouvert une enquête criminelle. Les policiers impliqués ont été suspendus de leurs fonctions, selon la police de Kenosha. La famille de Jacob Blake va porter plainte au civil, a fait savoir l'avocat des droits civiques, Ben Crump, qui assure également la défense des familles de Trayvon Martin et de George Floyd, 2 autres victimes de bavures policières.
La Convention nationale républicaine en est à son 3e jour ce mercredi. Parmi ceux qui s'expriment ce soir, le vice-président Mike Pence. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le colistier de Donald Trump a choisi un endroit symbolique dans l'histoire américaine pour prononcer son discours, le Fort McHenry de Baltimore, qui a permis de défendre la ville pendant la guerre de 1812 contre les Britanniques et qui a inspiré l'hymne national américain. Les analystes prédisent un discours centré sur le patriotisme, mais aussi sur la réponse du gouvernement face à la pandémie de COVID-19, puisque Mike Pence en est le coordonnateur. Autre discours très attendu ce soir, celui de Kellyanne Conway, conseillère du président Trump, qui va quitter la Maison-Blanche le mois prochain pour, dit-elle, se consacrer à sa famille. Plusieurs anciens de l'armée, y compris des femmes, doivent aussi s'exprimer ce soir. Hier, Melania Trump, l'épouse du président, a longuement évoqué l'impact du COVID-19 en Amérique et vanté la réponse de son mari, Donald Trump, face à la pandémie. Elle a aussi plaidé pour l'harmonie raciale aux États-Unis.
L'ouragan Laura s'est renforcé en catégorie 3, charriant des vents de 185 km/h et menace les côtes américaines dans le golfe du Mexique. Il devrait se renforcer en catégorie 4 en s'approchant de la Louisiane et d'une partie du Texas, selon le Centre national des ouragans, qui a mis en garde contre des crues soudaines. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
La 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement s'est ouverte aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette réunion, en mode virtuel, regroupe les gouverneurs des 54 pays membres régionaux et 27 membres non régionaux. Le thème central de la session des gouverneurs est axé sur la gestion de la pandémie, notamment mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de COVID-19. L'un des points importants de cette session annuelle de la BAD est aussi la réélection de son président, le Nigérien Akinwumi Adesina, seul candidat en lice. La croissance économique de la Côte d'Ivoire devrait ralentir à 1,8% en 2020 contre 7,2% projeté en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. C'est ce que fait savoir ce mercredi le président Alassane Ouattara. Plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne, notamment l'agriculture, la construction, les transports et le tourisme, ont été touchés par la pandémie qui a ralenti le produit intérieur brut du premier producteur mondial de cacao. La croissance du PIB de la Côte d'Ivoire avait été en moyenne d'environ 8% entre 2012 et 2019, a déclaré Ouattara lors d'un discours à l'Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Démarré hier, le feuilleton de la star argentine du FC Barcelone se poursuit. Lionel Messi nous a communiqué qu'il n'allait pas se présenter aux entraînements, a annoncé le directeur sportif du FC Barcelone, Ramon Planes, assurant que le Barça cherche la meilleure solution pour le club et pour Messi dans ce débat de divorce. Mais tous les échanges resteront entre les deux parties, le club et le joueur, et nous ne communiquerons pas sur ce qui se dit par respect car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue, a coupé le directeur sportif. Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Le Barça s'est reconstruit plusieurs fois durant son histoire et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée, c'est de le faire encore une fois autour du meilleur joueur du monde, a répété le directeur sportif qui ne perd pas espoir de retenir la superstar au club. Ici, en MLS, l'Impact Montréal, entraîné par Thierry Henry, a repris le cours de la saison régulière de la Ligue nord-américaine par une victoire 2-0 aux dépens des Vancouver Whitecaps hier pour la 8e journée. Ce succès permet à l'équipe canadienne de s'emparer de la 4e place de la conférence Est. Dans les autres rencontres, les Chicago Fire ont battu le FC Cincinnati 3-0, 1-2 pour New England Revolution face à DC United, 1-0 pour Philadelphia Union face à New York Red Bulls, nette victoire 5-2 pour le Houston Dynamo devant le Sporting Kansas City. En basketball, les Clippers n'ont pas fait de détails, 154-111 pour reprendre les devants aux dépens de Dallas, 3-2 dans leur série du premier tour des playoffs. De son côté, Denver peut remercier Murray. Les Nuggets, dos au mur, ont vaincu Utah 117-107 et ils le doivent à la performance majuscule de leur meneur, Jamal Murray, auteur de 42 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. En face, Donovan Mitchell a encore été performant avec ses 30 points et 5 passes, mais un peu seul pour rivaliser sur la fin de match. Utah mène 3-2 et devra se battre jusqu'au bout car les Nuggets n'ont pas dit leur dernier mot. match numéro 6 ce jeudi. Dans les autres rencontres de ces playoffs, les Los Angeles Lakers mènent face à Portland 3-1. Oklahoma City et Houston sont à égalité, 2 victoires partout. Milwaukee a pris les devants face à Orlando 3-1. Pour les séries terminées, Miami s'est qualifié, 4-0 contre Indiana. Pareil pour Toronto de Pascal Siakam et Serge Ibaka, qualifié devant Brooklyn, tout comme Boston face à Philadelphie du Camerounais Joel Embiid.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Mali, le Comité national pour le salut du peuple, organe de la junte, continue ses consultations pour la mise en place d'une transition. Aujourd'hui, les Bamakois se posent beaucoup de questions alors que plane l'incertitude après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a tendu son micro à des habitants de la capitale malienne.
Hier, c'était les balais diplomatiques à Kati. Le président du Comité national pour le salut du peuple a accordé des audiences aux ambassadeurs du Maroc, de la France, d'Algérie, alors qu'il avait reçu bien avant celui de la République fédérale de la Russie. À Bamako, c'est la mise en place de la transition qui domine les débats. Moro Diakité, enseignant.
Je veux que la transition soit assurée par les militaires, par ceux qui ont fait le coup d'État, parce qu'ils ont risqué leur vie pour cela. Et là où nous sommes, en réalité, nous nous faisons pas confiance aux hommes politiques maliens car ils ont montré leurs limites. La durée, je ne veux pas que les choses soient précipitées, qu'on leur donne le temps optimal pour qu'ils organisent les élections au moment voulu. Quand tout sera mis au point, donc on peut aller aux élections. Pour moi-même, on peut leur accorder le reste du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant.
Sabine Laba est une femme d'affaires à Bamako. Elle pense que les militaires au pouvoir ne sera pas une bonne chose.
Il faut mettre un civil à la tête du présidentiel. Parce qu'avec les civils, les Maliens peuvent révolter contre lui. Mais si c'est un militaire, les gens ont peur.
Les associations et partis politiques, membres de la plateforme Force Nouvelle, optent pour une refondation du Mali. Mamane Mariko, président des Forces Nouvelles.
Une transition politique qui posera les bases d'un Mali nouveau. Et cela doit se faire de concert avec toutes les sensibilités du pays.
La transition doit être une aubaine pour doter le pays de nouveaux textes pour aller vers une 4e République. C'est ce que pense Mohamed Ag Mohamed Al-Khamis.
Il serait préférable, je crois, de laisser un militaire diriger la transition. Parce que ce que nous constatons, et ça aussi, ça s'explique par des faits passés. À chaque fois qu'on choisit un civil, il y aura toujours des contestations à.
C'est aussi le souhait des militaires qui sont au pouvoir, qui doivent recevoir dans la même optique les M5-RFP à Kapti et qui contestaient le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta les 2 derniers mois. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien parlementaire Guillaume Soro et l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé ne pourront pas se présenter à la présidentielle du 31 octobre. Ils ont chacun été condamnés à 20 ans de prison dans différentes affaires. La justice a confirmé leur radiation des listes par la commission électorale. L'opposant Akosi Benjo, ancien maire du plateau à Abidjan, a lui aussi été radié. Yacouba Ouédraogo a joint Alexis Tano, journaliste et analyste politique.
Ils ont tous été condamnés à 20 ans de prison, mais le problème c'est que, bon, c'est un débat juridique, hein. Leur condamnation n'est pas encore définitive. Ils ont été condamnés par défaut, on dit par contumace. Or, pour être radié, selon ce que la loi dit, il faut que la condamnation soit définitive, c'est-à-dire n'étant plus susceptible de voie de recours. Ouais, c'est ce que les avocats disent et c'est ce qui est dans la loi aussi. Or, il se trouve que ni le tribunal, ni le président de la CEI n'ont tenu compte du fait que leur jugement n'était pas encore définitif et qu'à tout moment, si ces personnes arrivaient à Abidjan, ils pouvaient saisir la justice pour revenir sur la décision.
Si Laurent Koudou Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ne sont plus électeurs, la conséquence logique, elle est là. Ils ne sont plus aussi éligibles et donc ils ne pourront pas postuler à la candidature à la présidence de la Côte d'Ivoire. ça va de fait.
De toute évidence, oui. Je crois que le combat n'est pas perdu. On voit Guillaume Soro qui a lancé un mot d'ordre qui dit que lui, dans tous les cas, il persistait, il signait, qu'il sera candidat et qu'il va le gagner. Du côté du FPI pro Laurent Gbagbo, ils disent que Laurent Gbagbo reste leur candidat. Et l'avocat de Laurent Gbagbo a encore saisi la justice pour un autre recours par rapport à cette décision d'éradiation qui avait été prise. Donc nous comprenons que c'est un débat juridique qui va s'engager.
Et donc finalement, le président Ouattara a déposé sa candidature lundi dernier. Guillaume Soro s'était déclaré candidat. Finalement, ce sera compliqué pour lui. Laurent Gbagbo, pratiquement plus possible au vu de la loi et au vu de ce qu'a décidé le tribunal. Ali Kona Bidji s'est déclaré candidat. Il n'a pas encore déposé son dossier. Afingé sans pareil. Finalement, on se demande, Ouattara fera face à qui à cette présidentielle du 31 octobre?
À la lieu où les choses vont, on risque de se retrouver dans la situation de 2015, où il y a eu un candidat plus fort et en face des candidats peu importants. Déjà, en ce qui concerne la candidature du président du PDCI RDA, il y a encore des doutes, parce que les responsables du pouvoir ont laissé déjà entendre que le président Henri Konan Bédié serait frappé d'inéligibilité parce que, dans la loi ivoirienne, un ancien président est membre du Conseil constitutionnel. Or, quand tu es membre du Conseil constitutionnel, tu ne peux pas faire à des candidatures à la présidence de la République. L'article 4 du Code électoral.
On sait que la troisième candidature de Alassane Ouattara est déjà contestée avec des violences dans certaines villes de la Côte d'Ivoire et même quelques morts. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette décision du tribunal en rajoute aux violences déjà en cours?
C'est vrai que leurs partisans demeurent mobilisés, mais je pense que pour le moment, ils n'en sont pas là, vu ce qui s'est passé avec les morts qu'on a déjà enregistrés et puis les appels au calme. Je pense que les responsables réfléchiraient par deux fois avant d'appeler encore à manifester. Surtout qu'on accuse la police de ne pas assurer suffisamment la sécurité des gens. On accuse des enfants en conflit de la loi de s'être infiltrés, de massacrer les marcheurs.
Alexis Tano est analyste politique. Il était joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le barreau nigérian s'insurge contre les assassinats fréquents dans le pays, annulant à cet effet l'invitation adressée à un gouverneur du Nord pour prendre la parole lors de la conférence annuelle de son organisation. Selon Amnesty International Nigeria, plus d'un millier de villageois ont été tués dans le Nord en 6 mois. 78 000 agriculteurs ont abandonné leurs terres à la suite d'attaques de terroristes et de bandits. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le 24 juillet, un vendredi vers 18h30, nous étions à la maison. Un groupe d'hommes armés est entré dans notre village. Après, ils ont commencé à tirer partout dans le village.
Les populations du Sud qui sont venues dans le Nord-Est vivent dans la peur au quotidien. Emmanuel Ali explique comment lui et sa famille ont été pris au piège par des coups de feu le 24 juillet dernier dans leur localité au sud de l'état de Kaduna. Les meurtres sont devenus assez fréquents dans le Nord. Les bandits armés s'en prennent généralement aux communautés, attaquant et tuant des résidents et incendiant leurs maisons.
Après avoir mis le feu à notre maison, j'ai pris la fuite, mais j'ai eu le courage de revenir parce que ma maman est malade et paralysée depuis 6 ans. Elle était dans la maison lorsqu'ils ont mis le feu. Les flammes étaient presque arrivées à son niveau. J'ai enlevé la fenêtre par la force et je suis allé sortir ma mère.
De nombreux villages dans l'état de Kaduna ont été pillés à la suite de ces attaques. Kaduna est composé de chrétiens et de musulmans. Les chrétiens vivent principalement dans le sud, tandis que les musulmans sont majoritairement dans la partie nord. Les villageois du sud de Kaduna disent que les assaillants sont les musulmans, principalement des éleveurs de bétail qui sont accusés d'utiliser leurs animaux pour détruire leurs récoltes. Jonathan Asake est le président de l'Union pour la défense du peuple du sud de Kaduna, Sokapo.
It's nothing else but land. The indigenous...
Rien d'autre que le problème de terre. Les indigènes et propriétaires de ces terres sont en train d'être chassés de leurs terres graduellement. Les peuls nomades viennent occuper ces terres. C'est l'expérience que nous vivons dans nos communautés tous les jours. Donc, c'est un génocide, un nettoyage ethnique qui se passe dans le sud de Kaduna.
Mais le gouverneur de l'état de Kaduna, El Rufai, donne une autre version des faits et ce qui est à l'origine des attaques récurrentes dans cette partie du pays.
It usually starts with a quarrel between Tout commence souvent entre un individu d'un groupe ethnique et un autre ou de différentes religions, si cela oppose deux personnes d'une communauté. Et ce conflit doit normalement être résolu pacifiquement par les leaders religieux ou la police ou encore autre entité locale. Mais ça finit toujours par s'étendre et devenir un conflit entre groupes ethniques.
Le gouverneur El Rufai devrait s'exprimer à la conférence annuelle du barreau nigérien, mais l'invitation lui a été retirée par le leadership de l'organe. Clément Chukwuemeka dirige la branche d'Abuja, la capitale fédérale.
Même si vous êtes un gouverneur, vous êtes le responsable chargé de la sécurité dans cet état particulier. Vous avez prêté serment pour défendre vos citoyens. Mais il n'y a pas un seul jour qui passe au Nigeria sans que quelque chose ne se passe. Et il est temps que nous commencions à interroger certains de nos leaders.
Les auteurs de ces assassinats ne sont pas encore connus ni arrêtés et les populations accusent les autorités de l'État de ne rien faire. La mission des Nations Unies au Nigeria s'est dit préoccupée. Une délégation onusienne est allée voir le président Muhammadu Buhari au sujet de l'épineuse question le week-end dernier. Edward Kallon a conduit la délégation à la villa présidentielle.
J'ai dit au président qu'en plus des efforts militaires, il faut compléter cela par un processus politique de dialogue pour trouver une solution durable à la crise. Donc nous pensons qu'il faut employer différents moyens pour trouver une solution.
Ces meurtres ont récemment déclenché des manifestations dans certains états, notamment à Kaduna, Abuja et Lagos, par les habitants des communautés locales. Ils ont exigé la fin immédiate de ce qu'ils ont qualifié de génocide en cours dans leur village. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Élection américaine 2020. La première dame, Melania Trump, a plaidé en faveur d'un second mandat pour le président Donald Trump durant la deuxième soirée de la convention républicaine mardi soir. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a, de son côté, rompu avec la tradition en s'adressant à la convention à partir de Jérusalem. Un reportage de Patsy Widakuswara avec le récit de Lionel Gaïma.
S'exprimant dans le jardin de roses de la Maison Blanche, la première dame Melania Trump a tenté de convaincre les Américains que son époux mérite de diriger le pays pendant 4 autres années. Elle a cherché à atténuer certaines préoccupations des électeurs.
Donald n'aura pas de répit avant d'avoir fait tout ce qu'il peut pour venir en aide à tous ceux qui sont affectés par cette terrible pandémie.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est adressé à la convention à partir de Jérusalem, rompant avec la tradition imposant aux employés du département d'État d'éviter des activités ouvertement partisanes lors des missions à l'étranger.
Le président a déplacé l'ambassade américaine dans cette ville de Dieu, Jérusalem, la capitale légitime de la nation juive.
Pompeo a souligné la récente annonce d'une normalisation de relations entre les Émirats arabes unis et Israël, un accord rejeté par les Palestiniens. Il a rappelé aux électeurs la doctrine de Trump, à savoir l'Amérique d'abord. Vanessa Beasley, professeure de sciences politiques à l'Université Vanderbilt.
Vous continuerez de voir la mise en exergue de ce que la présidence Trump croit être des victoires. Et je pense que l'intervention de Pompeo à partir de Jérusalem constitue probablement la principale et elle vise à mobiliser les électeurs qui ont vraiment Israël à cœur.
Dans le sillage de Donald Trump Jr., son frère Eric et sa sœur Tiffany ont eux aussi vanté les réalisations de leur père. Contrairement à la tradition selon laquelle les candidats n'apparaissaient qu'à la dernière soirée de la convention, le président Trump s'est exprimé à la Maison Blanche. Le chef de l'exécutif américain, qui est connu pour ses mesures drastiques contre l'immigration, a assisté à la naturalisation de 5 nouveaux Américains. Une autre première dans l'histoire des conventions.
Vous avez gagné la plus recherchée, la plus précieuse, la plus chérie, la plus inestimable des possessions au monde. Elle s'appelle la citoyenneté américaine.
Alors que les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter se sont exprimés à la convention démocrate de la semaine dernière, l'ancien président républicain George W. Bush ne figure pas sur la liste des orateurs de la convention républicaine. Son père, ancien président, et lui-même n'avait pas pris part à la précédente convention en 2016. Matthew Continetti, chercheur à l'American Enterprise Institute.
Ce que cela traduit est la révolution mise en œuvre dans le parti par Donald Trump sur 4 ans. Il a changé le parti républicain plus qu'aucun homme depuis Ronald Reagan.
Le vice-président Mike Pence acceptera officiellement sa nomination ce soir.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.